C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur?
Il y a
les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est 12h15, nous sommes mercredi 8 avril, jeudi 9 avril pour celles et ceux qui nous écoutent en rediffusion. Et si c'est le cas, bonne matinée à vous. Aujourd'hui, nous entendrons Nadia Dupont, géographe et conférencière à l'université Rennes 2, au sujet d'une tribune réunissant plusieurs scientifiques rennais. Elle a été interrogée par Nina. Bonjour Nina.
Salut Valentine. Alors oui, Nadia Dupont fait partie des 34 scientifiques qui ont signé une tribune demandant la poursuite des discussions démocratiques du Sage-Vilaine, bloquée en décembre dernier et suspendue depuis. Les scientifiques y réaffirment surtout le besoin de réduire l'usage des pesticides. La tribune a été publiée sur le club de Mediapart il y a quelques semaines déjà, sans réaction des autorités.
Et tu nous emmènes également à une sortie de résidence d'un projet culturel de 3 ans. Mais de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un projet artistique pas habituel, mêlant les unités psychiatriques d'un centre hospitalier, une compagnie d'acteurs et d'actrices et une MJC. C'est le projet « C'est le qui nous entoure » pour lequel la compagnie, le groupe Odyssée, est partie à la rencontre de patients, de soignantes et de résidentes du centre hospitalier Guillaume Régnier.
Pour en savoir plus, ce sera en fin d'émission avec Nina, mais d'abord nous retrouvons Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Valentine.
Une actualité t'inquiète, voire te met un peu en colère. Il s'agit d'une proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rave party déposée le 18 mars dernier.
C'est la loi 1133 déposée par des députés du groupe Ensemble et Horizon. Elle va être votée ce jeudi 9 avril à l'Assemblée. Son projet, je cite, vise à réaffirmer l'autorité de l'État face aux difficultés et dangers causés par ces rassemblements illégaux. La loi propose de remplacer l'actuelle contravention par un délit. La peine pourrait aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et de 5 000 € d'amende pour les organisateurs. Pour les participants, ça évolue également. La contravention s'élèvera désormais à 1 500 €. Au-delà de la question de l'aspect moral d'une free party, la répression pour réguler est un argument autoritaire inefficace. Dans une lettre ouverte adressée aux députés, Nathalie Théot, présidente de la Ligue des droits de l'homme, explique « La LDH tient à rappeler qu'il est parfaitement établi que l'imposition de courtes peines de prison ne permet pas de mener une politique pénale efficace et que celle-ci se révèle bien souvent contre-productive. L'imposition de ces peines conduirait à un effet désocialisant pour les auteurs des faits sans pour autant établir à l'objectif constitutionnellement reconnu de réinsertion. Suite à ce projet, une pétition intitulée « Protéger la free party contre les dérives sécuritaires » de la proposition de loi 1133 a déjà récolté 25 000 signatures.
25 000 déjà, c'est pas mal. Mais est-ce que cet impact témoigne d'une crainte qui continue de monter chez les teufeurs ?
Eh bien, on peut le penser car Laurent Nunez élargit le tir en proposant une autre loi qui en dit long sur la stratégie répressive de l'État. Le projet Riposte pour réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Ici sont visés les free parties, mais aussi les rodéos motorisés, le recours aux mortiers d'artifice comme armes, les violences dans le sport, l'occupation illicite de logements par les squatteurs ou encore l'usage détourné du protoxyde d'azote. Et pour réguler ces phénomènes, le ministre de l'Intérieur souhaite permettre aux forces de l'ordre, aux enquêteurs et aux services de renseignement de disposer d'outils plus efficaces. Sauf que ces phénomènes révèlent chacun de problématiques différentes présentées sous l'étendard de troubles à l'ordre public. Cette loi, en fait, du coup, elle s'apparente à un fourre-tout, elle mélange des problématiques aux enjeux différents et dont la solution serait la surveillance massive et la répression policière. Et je le rappelle, si vous n'êtes pas hyper fan des dérives autoritaires, vous pouvez signer la pétition « Protéger la free party » contre les dérives sécuritaires de la proposition de loi 1133 sur le site de change.org.
Une pénalisation qui pose question, mais est-ce qu'interdire, c'est mieux réguler ? Un début de réponse avec Julie. Merci Julie. Et vous êtes toujours sur Canal B, petite pause musicale avant de retrouver Nina et son invité.
Mmh. just defiled. Welcome to the 1%. Please ignore the young woman who disappeared with Harvey at his famous dinner parties. Hollywood Boulevard, jumbo jets, secret clubs. They can be young as you want, just don't get caught. The devil's on your shoulder with one hell of an upper. Don't you wanna see how the other half live? Give me love, give me faith, play God, kiss of death. The devil's on your shoulder with one hell of a deal. Take it!
C'était les Lambrini Girls, Cult of Celebrity, les nouveaux singles toujours aussi punky et incisifs des Riot Girls de Brixton. C'est tout nouveau, c'est tout frais, sorti mardi dernier. Aussi énervés que les Lambrini Girls, ce sont les scientifiques rennais. Ils appellent au maintien du débat sur la réduction de l'usage de pesticides alors que le Sage-Vilaine est aujourd'hui bloqué. Une tribune a été écrite à ce sujet et Nina est allée rencontrer Nadia Dupont, géographe, conférencière à l'université Rennes 2, signataire de cette tribune. Elle nous éclaire sur les revendications derrière ce manifeste.
Nadia Dupont, vous êtes géographe et maîtresse de conférences en géographie à Rennes 2. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous, scientifiques des sciences de la santé et des sciences humaines et sociales, réaffirmons l'importance des processus de construction de décisions intégrant le respect du monde vivant et de la santé humaine au sein des sages. C'est une des phrases de la tribune que vous avez signée avec plusieurs confrères et consoeurs scientifiques de la métropole rennaise. Dans cette tribune, vous rappelez la nécessité de réduire l'usage des pesticides et la nécessité de maintenir un débat démocratique ouvert sur ce sujet, alors que le processus du Sage-Vilaine a été bloqué en décembre dernier par des agriculteurs à l'appel de la FDSEA, et que dans la foulée, le Premier ministre a gelé tous les processus et prises de décision de gestion de l'eau au niveau local. Alors quand on publie une tribune, on cherche à interpeller. Qui cherchiez-vous à interpeller avec cette tribune publiée le 12 mars dernier sur Mediapart? Et vous a-t-on répondu surtout?
Alors, je vais parler en mon nom. Hein. La tribune, elle a été, c'est un appel de Luca Quinina, hein, qui a mobilisé du coup un réseau de 6 chercheurs, effectivement, sur la place de Rennes. Et pourquoi on publie cette tribune qui on cherche à interpeller? Je pense que on cherche à interpeller les décideurs politiques et notamment, effectivement, au niveau national. Et le représentant au niveau départemental, le préfet, puisqu'il y a aujourd'hui un gel de décision. Donc c'est en premier lieu ces niveaux-là de décision. Et puis aussi le grand public, pour dire que il y a aujourd'hui une actualité qui est problématique sur cette question cruciale de l'eau.
Et alors, est-ce qu'on vous a répondu?
Pas réellement, mais en tout cas, j'ai l'impression que médiatiquement, elle a circulé, mais il n'y a pas aujourd'hui de réponse formelle.
Pas encore de réponse formelle. Alors, pour le rappeler à nos auditeurs et auditrices, on parle du Sage-Vilaine. Donc, un sage, c'est un accord dont le but est de fixer les règles d'utilisation et de gestion des eaux, avec un objectif sous-jacent de gérer ces eaux de manière durable du point de vue de la qualité comme de la quantité. Alors, concernant le bassin de la Vilaine, les réunions de travail qui sont menées par la CLE, la Commission locale de l'eau, sont bloquées depuis décembre 2025, alors que le compromis final devait être signé en février 2026. Alors, on a avec nous aujourd'hui une géographe qui a aussi une formation en hydrologie. D'un point de vue purement scientifique, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on devrait faire aujourd'hui rapidement pour que les eaux du bassin de la Vilaine soient, on va dire, d'une qualité optimale et bien gérées au niveau des quantités? Quels sont les problèmes et comment on pourrait y remédier de manière assez immédiate?
Au risque de vous décevoir, si on avait une solution rapide et efficace, je pense que ça ferait peut-être longtemps qu'on aurait moins de problématiques. Donc, c'est des problématiques qui demandent des actions qui sont assez complexes et longues à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, les problèmes de qualité hein, puisque c'est bien là que la discussion se porte, hein, puisque c'est sur les questions de pesticides dans l'eau. Les problèmes de qualité, ça demande de repenser la façon dont on aménage nos territoires et les usages que l'on a sur nos territoires. Donc c'est repenser le système et notamment en partie les activités agricoles.
Effectivement, il y a la mesure emblématique du Sage-Vilaine qui était en discussion, c'était l'interdiction d'épandre des herbicides maïs, si je ne me trompe pas, sur les aires d'alimentation d'eau potable qu'on dit prioritaire. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu plus pour les auditeurs auditrices ce que ça veut dire et surtout du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opposition dans le débat entre certains syndicats agricoles peut-être ?
Alors, au départ, c'est on a une qualité de l'eau qui aujourd'hui peut être problématique pour l'eau potable. Et du coup, dans le cadre de la discussion du Sage-Vilaine, la clé s'était mise d'accord sur les secteurs donc de captage d'eau pour l'alimentation, pour nous autres, hein, pour tous les habitants du bassin, d'empêcher l'utilisation donc d'herbicides du maïs sur des parcelles où on savait que si on les utilisait très rapidement, ils se retrouvent en fait dans l'eau qui est captée pour l'eau potable. Donc c'était une première pierre en fait, hein, pour essayer de limiter cette pollution aux pesticides qui est problématique pour la santé.
Et à ce sujet, alors quelle a été la teneur de la discussion et où est-ce qu'on en était au moment où les discussions ont été bloquées en décembre dernier ?
Alors la teneur de la discussion, elle était donc de bien cibler sur ces parcelles à risque, donc c'est quand même limité, hein, au niveau du bassin, hein, c'est quelques surfaces de parcelles. Et la discussion qui a eu lieu, c'était évidemment si on n'utilise pas ces herbicides, ça peut être problématique pour l'activité agricole. Donc qu'est-ce qu'on fait comme action ? Donc il y a le désherbage mécanique qui existe aujourd'hui sur le maïs, qui prend souvent plus de temps, donc il y a un coût. Et donc c'était des contreparties qui étaient données aux agriculteurs pour qu'il y ait effectivement une acceptation de cette transformation.
Et en l'état, la discussion était avancée, c'est-à-dire est-ce que ces compromis-là avaient été menés au bout ? Est-ce que ces compensations avaient été acceptées par les personnes concernées ?
Voilà, alors en l'état de ce que moi je connais des débats, mais je ne siège pas à la commission locale de l'eau, mais de ce que je connais des débats, en tout cas, le principe avait été admis puisque le projet du SAGE était parti en consultation. Donc ça veut dire que quelque part, on s'était mis d'accord sur ce projet-là. On n'envoie pas un projet si déjà la commission locale n'est pas d'accord. Donc la commission locale de l'eau était d'accord sur le projet et il restait à discuter justement les modes de compensation, etc., donc, qui ont été faits. Mais il y a eu en fait un blocage par, on va dire, une partie, hein, parce que tous les syndicats agricoles ne sont pas, mais par une partie de la profession agricole.
Vous venez d'évoquer le fait que vous ne siégez pas actuellement à la clé, mais vous avez pu y siéger à certains moments. Donc j'imagine que vous avez pu voir certaines mesures, ou en tout cas des débats, des discussions. On va reparler de certains de ces syndicats agricoles qui ne prennent pas forcément en compte vos arguments scientifiques. Mais est-ce que l'état de la discussion, les textes, les compromis évoqués pour vous, ils vous paraissaient radicaux ou très polarisés au moment où vous y étiez ?
Ça dépend des sujets qui sont posés. Moi, quand j'y étais, il y avait beaucoup de discussions autour de la préservation des zones humides qui étaient beaucoup discutées, notamment là, cette fois-ci, par les élus parce que ça pouvait les empêcher d'urbaniser. Donc, il y avait des tensions à ce niveau-là. Mais justement, le but d'une commission locale de l'eau, c'est d'être un lieu où chacun apporte ses arguments et on essaie de trouver un consensus commun en sachant que le but final, c'est quand même d'arriver à préserver la ressource en eau d'un point de vue qualitatif et quantitatif et les milieux associés. Et du coup, pour trouver ce consensus, ça peut prendre effectivement du temps, des débats, hein, mais c'est le but de cette commission, c'est d'arriver à tous les usagers, hein, toutes les parties prenantes se mettre autour d'une table et à force de discussion, de trouver un commun accord.
Bang my head on the radiator. I hang my socks on the radiator. I bang my head on the radiator. I bang my head. I bang my head on the radiator. I hang my socks on the radiator. I bang
the Dyson Airblade. Once just a man looking at his hands thinking, I'm gonna make these so fucking dry, you won't believe it. A lifelong fiddling, thumb twiddling, 1400 minor tweaks, a big fat gas leak.
I feel sick.
The smell don't stop.
I feel sick.
I'm just not sniffing it.
I feel sick.
C'était le duo britannique Get Down Services, The Radiator, leur tout nouveau morceau sorti mardi dernier. Les Rois de l'Absurde confirment leur titre avec ce nouveau single qui parle de se cogner la tête contre un radiateur en y faisant sécher ses chaussettes. Toujours sur le label indépendant Made in Bristol, Breakfast Record. De retour sur le plateau de 3 en 1, Nadia Dupont revient sur la tribune dont elle est co-signataire avec 34 autres scientifiques.
Vous, en tant que scientifique, comment vous expliquez le refus de certains, alors pas, peut-être pas forcément les syndicats agricoles, mais peut-être des élus également, de prendre en compte des arguments scientifiques que vous visibilisez et que vous apportez. Et vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls à apporter ces arguments-là. On peut également penser à des associations comme le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest qui souvent les rappellent dans le débat public. Comment vous expliquez qu'ils ne sont pas pris en compte ?
La difficulté, c'est... évidemment, les résultats, de mon point de vue scientifique, qui sont aujourd'hui peu discutables hein, sur la dangerosité des pesticides. Aujourd'hui, il y a un vrai consensus à ce niveau-là, au niveau notamment des épidémiologistes, etc. Et sur la présence hein, de ces éléments dans l'eau, aujourd'hui, voilà, c'est connu. Après, avoir des actions pour les limiter, c'est souvent en fait changer quand même de façon importante notre façon de faire. Et ça, c'est pas simple. Donc, ça demande des changements pour des personnes qui sont dans un système économique pour lequel ils ont du mal à imaginer qu'il faut changer, ou pour eux, ça peut être des risques aussi économiques de changer. Donc, le changement, c'est pas quelque chose de simple quand on est dans un système qui est déjà très complexe. Ça apporte effectivement des difficultés, et face à ces difficultés-là, une des réactions, ça peut être de dire non. Non, je ne veux pas entendre. Non, je ne peux pas, en fait. Ce qu'on me demande, c'est trop. Et c'est pas à moi de changer. Voilà. Je ne sais pas si c'est complètement un refus de l'argument scientifique. Ça peut être aussi une incapacité à agir et donc finalement à vouloir entendre parce que c'est trop complexe.
Une incapacité à agir ou à pouvoir imaginer le changement et imaginer d'autres méthodes peut-être de travail. Merci pour cette explication-là. Et je voudrais vous parler, peut-être prendre un peu de recul sur le sage-vilaine et parler un petit peu de la place des scientifiques dans le débat public aujourd'hui. Nous avions il y a quelques jours au micro de Canal B deux chercheuses de Besançon qui témoignaient que dans leur laboratoire, certains et certaines chercheuses, chercheurs ne se sentaient plus considérés par les pouvoirs publics et aimeraient parfois contribuer à la prise de décision, apporter des éléments éléments tangibles et rationnels. Est-ce que vous partagez ce constat, vous aussi? Est-ce que vous vous sentez parfois un petit peu, bah, pas méprisé, mais en tout cas pas entendu par les pouvoirs publics?
Personnellement, oui. Après, je pense que c'est chaque chercheur peut penser sa position différemment dans la société. Certains peuvent imaginer que c'est pas leur rôle forcément de faire le transfert entre la science et finalement la décision politique. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai participé à la clé. Je fais beaucoup de recherche action. Je suis dans des réseaux où j'estime que ma recherche, elle est intéressante si effectivement elle participe au débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que cette parole scientifique, elle est peu entendue ou en tout cas beaucoup critiquée, et on a du mal effectivement à se faire reconnaître en tant que pouvant participer à la décision.
Vous parlez dans la tribune, donc publiée sur Mediapart le 12 mars, vous parlez des sages en général, donc pas forcément que du sage vilaine, des sages comme aussi instance de débat démocratique et de discussion. Est-ce que vous avez connaissance de sages où les points de vue étaient à la base opposés sur des sujets de gestion de l'eau, mais qui ont finalement réussi à être surmontés et à aujourd'hui gérés collectivement d'une manière plus durable? Est-ce que ça existe aujourd'hui?
Heureusement, les sages, ils ont été créés en 1992 par la loi sur l'eau. Donc, c'est des instruments qui sont anciens, les commissions locales de l'eau. La Vilaine, depuis 2003, il y a une commission locale de l'eau. Donc, c'est ancien. Et heureusement, il y a déjà eu un sage Vilaine, un premier qui a été révisé et qui est de nouveau en révision. Et on a réussi à s'entendre. Donc, normalement, les commissions locales de l'eau, elles s'entendent. Elles arrivent à trouver un consensus. Alors, des fois, ça peut être long, complexe, mais elles ont, de mon point de vue, souvent fait avancer les choses et fait en sorte qu'il y avait une réflexion locale de ces questions-là. Mais sur la question des zones humides, comme je vous ai dit, sur la question de la limitation, effectivement, de certains entrants polluants, c'est compliqué, tendu, et ça peut prendre du temps, mais la plupart du temps, on arrive à des consensus. C'est vrai que là, il y avait la question des pesticides. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sage qui avait vraiment été allé aussi loin que le sage Vilaine. Donc, c'était un peu une première. On voit que c'est complexe. Mais normalement, ça doit aboutir dans les commissions locales de l'eau. Et c'est bien ça, notre tribune, de dire il ne faut pas arrêter ça. C'est fondamental qu'il y ait ces débats et qu'il y ait une démocratie qui se fasse sur ces questions.
Il faut peut-être le rappeler aussi, effectivement, que c'est un processus qui marche, qui fonctionne depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Effectivement, un bon message d'espoir, on va dire, quand même, pour le sage Vilaine. Pour vous, en tant que scientifique, mais aussi collectivement avec les autres signataires de cette tribune, quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous avez prévu de réécrire quelque chose, de republier quelque chose dans la presse, de prendre la parole, peut-être de soutenir les manifestations de la société civile à cet endroit, ou d'autres choses?
Non, on n'a aujourd'hui pas de ligne claire de ce que l'on va faire. Après, on peut être sollicité, et on a dit qu'on répondait aux sollicitations médiatiques. En fonction de comment cela évolue, peut-être qu'on refera aussi une intervention. Et après, comme je vous l'ai dit, chaque scientifique aussi est citoyen et peut s'engager effectivement de façon plus personnelle. Mais c'est vrai que pour les scientifiques qui travaillent sur l'eau aujourd'hui, ce moratoire, par exemple, il est pour nous très difficile à entendre, parce que la question de l'eau, elle est fondamentale, et on peut pas s'arrêter. Il faut forcément avancer.
Merci beaucoup Nadia Dupont d'avoir été avec nous au micro de Canal B. Je le rappelle, vous êtes géographe et maîtresse de conférences en géographie à l'université Rennes 2.
Merci beaucoup.
Vous êtes toujours dans 3 en 1, l'émission d'actualité et de société de Canal B. Cette fois, c'est à la MJC Le Grand Cordel que l'on vous emmène. Une restitution finale d'un projet artistique de 3 ans s'y prépare. Nina est allée enquêter. Elle a trouvé sur son chemin Marine, Marie, Cécile, Flora et Romain du groupe Odyssée, compagnie coporteuse du projet.
Non, c'est ça.
10h, mardi 7 avril, à la MJC Le Grand Cordel, au nord-est de Rennes.
Et la régie, Marie, on est où?
À l'intérieur du bâtiment, Flora, Marine, Marie, Romain et Cécile s'affairent dans la salle de spectacle, leur terrain de jeu pour les deux prochaines semaines. Elle et ils sont membres de la compagnie Le Groupe Odyssée, qui pendant 3 ans a investi les thèmes des récits, de la mémoire immatérielle et des liens entre patientes et soignantes dans le cadre du projet « Celles qui nous entourent », mené dans des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier et en partenariat avec la MJC Le Grand Cordel. Flora, actrice et membre de la compagnie.
Donc là, on est au Grand Cordel avec mes camarades et on commence notre dernière résidence de 10 jours. Et voilà, on va préparer pendant 10 jours une performance, on ne sait pas encore quoi, mais un projet artistique pour témoigner de ces 3 années.
Un projet au cours duquel ils se sont rendus dans des unités de pédopsychiatrie, des unités carcérales psychiatriques, mais aussi en EHPAD ou en maison d'accueil spécialisée.
On a fait des karaokés cafés, on a fait des interviews, on a fait des émissions de radio, des fictions radiophoniques. En fait, on a inventé sur mesure, en rencontrant les unités, autour de 3 thèmes. L'année 1, c'était se rencontrer. L'année 2, c'était se raconter. Et l'année 3, c'était se représenter. Tout ça autour de la mémoire matérielle et immatérielle.
Autant de moments du projet qui pourraient prendre plusieurs formes pour la restitution.
Voilà, tout à l'heure, quand on en parlait, mais j'aimerais bien qu'il se passe des trucs dans le hall, déjà. Peut-être un espèce de before, soit on simule une arrivée.
Romain, coordinateur du projet et acteur, a déjà quelques idées.
On a fait des entretiens avec des patients, patientes, des soignants, soignantes. Et en fait, on a ces entretiens dans l'oreille, au casque, nous, interprètes. Et en fait, on dit ce qu'on entend. Ce qui fait qu'il y a un petit décalage, mais n'empêche, la substance parvient aux spectateurs et aux spectatrices.
Si les formes que prendra la restitution finale restent encore à dessiner, un de ces enjeux s'est immédiatement imposé aux artistes. S'adapter aux spécificités de la thématique de la psychiatrie. Cécile Kerel, autrice ayant participé au projet « Celles qui nous entourent ».
Un enjeu important, c'est que les personnes qui ont participé à ces ateliers, donc les personnes qui ont été soignées à Guillaume Régnier, puissent venir et se sentent à la fois respectées et trouvent intéressant ce qu'on va présenter et trouvent que c'est représentatif et digne ce qu'on fait. Voilà, ça c'est un vrai enjeu.
Il n'y a rien.
Là, il n'y a rien. On part de zéro.
Et on se met très près des...
Aussi, il y a une question d'anonymat, un peu, parce que les gens se sont confiés et en même temps, on n'a pas envie de livrer comme ça leurs paroles. C'est pas des gens qui sont dans le spectacle. Donc en fait, on essaie de trouver de contourner un petit peu.
Un enjeu partagé par Élise Gamard, coordinatrice des actions culturelles et artistiques au Grand Cordel MJC, qui souhaite profiter de ce temps fort pour y faire venir les personnes du centre hospitalier Guillaume Régnier ayant participé au projet.
Pour nous, c'était important d'aller en dehors de la MJC parce que le projet de la maison de la MJC, il se veut d'être ouvert à toutes et tous. Et l'idée, c'est que justement, on puisse se sentir autorisé et légitime à venir dans ce genre de lieu. Donc là, pour le coup, moi, je suis en lien avec tous nos interlocutrices du CHGR en les invitant, bien entendu.
Entre excitation et émotion, le but est aussi de faire péter le fantasme de la psychiatrie, selon les mots de Romain. Un travail qui leur prendra probablement tout leur temps jusqu'à la sortie de résidence, tant les récits et les profils rencontrés et rassemblés pour ce projet ont été riches, comme en témoignent Marie et Marine, membres de la compagnie Le Groupe Odyssée.
On a vraiment hâte, ça a été un projet très très riche, qui nous a brassés nous pendant 3 ans. On est 5, ça a duré longtemps, on a rencontré vraiment beaucoup de personnes différentes du côté des soignants, du côté des patients et on a vraiment hâte, on a une sorte de matériau énorme devant nous, nos souvenirs, nos écrits, les sons qui ont été pris, les propositions de Cécile, les propositions au plateau qu'on s'est faites aussi pour essayer de rendre compte de tout ça et on a comme un grand terrain de jeu là pendant 2 semaines pour essayer de proposer une forme qui puisse raconter tout ça.
En fait moi j'ai très hâte aussi de rassembler, réunir les impressions des ateliers qu'on a menés là cette année parce qu'on n'en a pas encore discuté tous ensemble. Envie de, ça y est, de réunir et mettre en commun ce qu'on a vraiment partagé là au mois de mars et puis toute la matière des 3 ans quoi. Et ça va être, ouais, ça va être assez fabuleux je pense, assez fabuleux.
Un projet protéiforme pour rendre visibles celles qui nous entourent. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous à la MJC Le Grand Cordel samedi 18 avril à partir de 16h. Et la semaine prochaine, 3 en 1 prend des vacances. Et ça tombe bien parce qu'à la place, vous retrouverez le podcast du projet Celles qui nous entourent que l'on vient d'évoquer. 5 épisodes sur la première année de résidence du groupe Odyssée. Un podcast qui retrace la rencontre entre la compagnie et les résidentes et résidents des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier. Des récits intimes et sensibles suivis d'interviews des membres de ce projet. Un épisode par jour du 13 au 17 avril à 12h15 ou 8h15 en rediffusion sur Canal B. 3 en 1, on se retrouve quant à nous dès le lundi 20 avril. Tous les podcasts de 3 en 1 sont d'ici là à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Merci à toute l'équipe derrière cette émission, Nina, Manon et Julie. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.